Banque des Territoires, la radio au salon des EPL.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Banque des Territoires, la radio. Nous sommes en direct du congrès des EPL dans le mythique palais des festivals. C'est donc à Cannes, cette année, que la Fédération des élus des entreprises publiques locales a décidé d'organiser son congrès et son salon annuel. Une région sud et un département, les Alpes-Maritimes, qui se distinguent par le dynamisme de leurs EPL et la diversité de leurs champs d'action. Alexandre.
Oui, bonjour. Bonjour Marie-Hélène. Effectivement, 106 EPL en région sud, parmi lesquels 62 SEM, 2 SEMOP et 42 SPL. Vous parlez de dynamisme à juste titre. 10 nouvelles entreprises publiques locales ont été créées depuis 2020, 34 depuis 2014. Quand on jette un œil plus précis sur ces chiffres, sur les thématiques, pas de surprise, tourisme, culture, loisirs sont les mieux représentés avec 32 EPL. La région sud est l'un des fers de lance de la renommée internationale de la France en matière de culture et notamment de festivals.
Et oui, le Festival de Cannes. Merci Alexandre, on vous retrouve dans quelques minutes pour vos interviews. Le congrès des EPL, c'est à Cannes et c'est sur Banque des Territoires, la radio. Une émission aujourd'hui qui sera consacrée à la territoire d'accueil du congrès, bien évidemment, mais aussi une introduction qui met à l'honneur l'outre-mer, puisque comme chaque année, une plénière est spécifiquement consacrée aux outre-mer programmée lors de ce congrès. Et il y aura aussi un événement consacré aux outre-mer sur le stand de la Banque des Territoires. Ça sera en début d'après-midi et on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Donc on va s'intéresser aux EPL face à la complexité et à l'intensité des défis dans les territoires d'outre-mer avec notre première invitée, Karine Abeneza. Bonjour Karine.
Bonjour, merci pour votre invitation.
C'est avec plaisir. Donc vice-présidente du Conseil régional de la Réunion et présidente de l'AFPAR. Et à vos côtés, Nicolas Blanc. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes le directeur océan Indien de la Banque des Territoires. Alors Karine, déjà peut-être pour démarrer, l'économie mixte est très active à la Réunion. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés ou un petit contexte?
Oui, effectivement, donc très active à La Réunion, puisque sur les 116 EPL Outre-mer, nous en comptons 39 sur notre territoire. 39 donc dans les champs que vous avez cités, bien sûr dans l'aménagement, le tourisme, la gestion des déchets, la mobilité. Enfin, on les retrouve partout et depuis très longtemps, les élus se sont emparés de cet outil qui permet en fait de transcrire nos politiques publiques. Et donc on a créé cette chaîne de l'opérationnalité en allant de la vision stratégique à la déclinaison opérationnelle sur le terrain. Et donc nous en avons fait un vrai outil d'aménagement de notre territoire.
Comment vous expliquez ce succès de l'économie mixte à La Réunion ?
Le succès, c'est vraiment l'agilité, la souplesse de cet outil, donc qui permet le fameux in-house, qui permet en fait de décliner en son sein, j'ai envie de dire, une politique, quelle qu'elle soit, donc d'aménagement, de déchets. Et donc nous, on a très vite compris l'intérêt, puisque donc on se parle à soi-même en fait, en réalité. Et donc on a cette souplesse qui évite souvent donc des procédures longues de marché. Donc nous, on en a fait un véritable outil. C'est le bras armé des collectivités locales. Et c'est une vraie force de frappe.
Nicolas, quelles sont aujourd'hui les relations qu'a la Banque des Territoires avec ses EPL réunionnaises ?
Alors, comme cela vient d'être dit, la Réunion, c'est une terre d'économie mixte. Et la Banque des Territoires, un partenaire historique de l'économie mixte. Donc, la réunion des deux fait que le dialogue est naturel. Sur les 39 EPL que compte la Réunion, on en a une petite moitié que sont des SPL. Et on est au capital des deux tiers hein, des EPL réunionnaises, donc on les connaît bien. Dans la diversité des secteurs d'intervention qui sont les nôtres, en accompagnement des politiques publiques, que ce soit sur la mobilité, évidemment prioritairement le logement. On fait environ 250 millions d'euros annuellement de financement au logement, avec une problématique, tous les territoires illiens y seront confrontés, d'accessibilité aux fonciers, d'accessibilité à du foncier aménagé. Et donc, évidemment, ces outils in-house sont un moyen de faciliter, d'accélérer la prise de décision publique et de la concrétiser en projet. Donc, c'est assez naturel pour nous d'être un partenaire. Si je reprends quelques données sur le logement, Donc je vous disais environ 250 millions d'euros de financement chaque année. Ça veut dire que ce sont plus de 80 000 logements qui sont gérés par l'économie mixte à La Réunion. Et ça représente en gros un Réunionnais sur quatre qui est logé grâce à l'action de l'économie mixte.
Alors l'action de l'économie mixte, on va s'y intéresser plus en détail avec vous, Karine, et l'exemple de l'AFPAR, justement, que vous dirigez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son activité ?
Oui, alors l'AFPAR est une particularité, je pense, au niveau, donc c'est une SPL. Et je crois, sans trop me tromper, que c'est la seule SPL, donc au niveau national, qui s'occupe de la formation. En clair, la région Réunion a la compétence de la formation professionnelle, comme toutes les régions, du fait de la loi de décentralisation de 80. Et à La Réunion, donc, l'AFPAR, qui était dans le réseau des AFPAR nationales, donc sous tissu associatif, on l'a transformé en SPL, donc dans les années 90. Et cette SPL, en fait, très clairement, c'est notre centre de formation régionale. Et donc, d'un côté, nous avons la politique publique de la formation professionnelle, et de l'autre côté, nous avons un centre de formation qui, du coup, donc le in-house, bah, il est extrêmement percutant et pertinent pour nous, puisque du coup, ça nous évite. Donc, bien sûr, on a le marché privé avec qui on travaille, les organismes de formation, mais le fait d'avoir un centre de formation dédié, bah, ça nous permet en fait d'être très agile et donc de former les demandeurs d'emploi de notre territoire à tous les métiers qui sont dans la liste.
Dans quel domaine ?
Mais c'est
domaine.
Tous les métiers qui sont des titres RNCP, donc reconnus par le ministère du Travail. Donc c'est des formations certifiantes et diplômantes. Et donc c'est des voies parallèles à celles de la formation initiale et de l'éducation nationale. Donc très clairement, on peut faire une carrière via l'AFPAR et via la formation professionnelle et aller jusqu'à un bac plus 3 à 4 dans le champ de la formation professionnelle. Et l'AFPAR, du coup, nous permet en fait de proposer une autre manière de faire de l'apprentissage par le geste professionnel. Et ça, on peut le faire en notre sein. Donc j'ai envie de dire, c'est tellement, enfin moi, c'est une vraie souplesse. D'un côté, donc, je suis vice-présidente effectivement sur la formation professionnelle. Donc je définis la stratégie au niveau de la région avec les entreprises, avec le besoin de nos jeunes et de nos moins jeunes, des demandeurs d'emploi. Donc on a toute cette vision prospective et stratégique. Et de l'autre côté, je la décline avec, comme bras armé, mon meilleur outil, c'est l'AFPAR et bien sûr les autres. Mais l'AFPAR, là, du coup, donc on définit un programme qui colle complètement à notre territoire sur des métiers. Alors, vous m'avez demandé les métiers. On est allé sur l'intelligence artificielle, donc hier, avec Simplon, en alternance. On a fait le photovoltaïque, donc c'est les énergies renouvelables à La Réunion, c'est une vraie, c'est un vrai sujet. On est allé sur les déchets, la problématique des déchets, puisqu'on est sur problématique de recyclage. Donc on a ouvert sur un certain nombre de champs, et bien sûr sur les métiers traditionnels, le BTP, les métiers du commerce. Donc on a une vraie plus-value. Grâce à cet outil d'être une SPL. En tout cas, c'est vraiment pour moi une véritable chance.
Nicolas, est-ce qu'il y a des nouveaux partenariats dans l'actualité de la Banque des Territoires du côté de La Réunion ?
Alors, comme je vous le disais dans mon propos précédent, l'ancrage est historique. Je vais quand même vous rappeler que dans le logement, la SIDR, donc acteur du logement, vient de fêter ses 70 ans. Donc, autant dire que c'est la démonstration d'un ancrage qui se poursuit dans la durée. Peut-être sur des éléments plus d'actualité, à La Réunion, comme dans beaucoup d'îles, malheureusement, que l'on soit dans le Pacifique, aux Antilles ou dans l'océan Indien, ce sont des îles où la population est en croissance et où le parc automobile augmente très très rapidement, avec des phénomènes d'embolie circulatoire qui sont de plus en plus complexes à gérer et de plus en plus insupportables pour la population au quotidien. Et donc, on a accompagné une SEM qui s'appelle la Sedipark, avec l'intercommunalité du nord de l'île, la Cinor, qui, pour la première fois, a mis en place un système de transport par câble en zone urbaine, donc à Saint-Denis. Donc, c'est un mode de transport qui commence à se développer dans pas mal d'agglomérations. Mais là, c'était la première fois dans l'océan Indien. Le marché a été décidé en 2017. Nous avons apporté un financement de 10 millions d'euros signé en 2019 sur ce projet de transport par câble. Enfin, ce projet, cette réalisation de transport par câble qui fait près de 3 km et qui rencontre un vrai succès. Plus d'1,5 million de voyageurs en un an. surtout des jeunes. Moi, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant parce que, en fait, avec 5 stations sur près de 3 km, on dessert 3 lycées, 2 collèges, la région, l'université, plus évidemment des pôles économiques. Et quand on emprunte ce système de transport, ce télécabine, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui l'utilisent. Et donc, c'est un exemple que j'ai envie de vous donner parce que je trouve qu'il est assez original. Et il est intéressant non seulement socialement au vu de ce que je viens de vous dire, mais également écologiquement parce que non seulement ça coûte beaucoup moins cher que de construire une route, et c'est rapporté à l'utilisateur 50 fois moins énergivore que l'usage d'un véhicule automobile.
Effectivement. Nicolas Blanc, est-ce qu'on peut parler de l'événement qu'il y aura sur le stand de la Banque des Territoires en début d'après-midi ?
Alors, l'événement qui va avoir lieu en début d'après-midi, on s'en félicite avec Isabelle Bonnaujoin, ça va être l'occasion de réunir nos EPL réunionnaises de manière à partager les expériences. On voit qu'on a beaucoup de choses à se dire sur les modalités de financement. J'ai envie de vous dire, l'intérêt de réunir les EPL réunionnaises, c'est aussi de bien comprendre l'évolution de leurs besoins. C'est surtout et avant tout ça ce qui a motivé ce rendez-vous en début d'après-midi. Et puis partager avec eux quelques innovations, quelques travaux en cours. Là, on accompagne le syndicat intercommunal de gestion de l'électricité et la région qui se sont mis d'accord pour créer une SEMENR et donc qui va changer beaucoup de choses. Et il s'agit de faire connaître ces nouveaux modes de production d'énergie renouvelable qui peuvent intéresser les SEM qui s'occupent de logements, d'aménagement. Et donc, ça va faire du maillage. C'est ça l'idée.
Je vous remercie, Nicolas Blanc, Karine, bonne journée. Et on vous retrouve en début d'après-midi donc pour cet échange autour des EPL de La Réunion. Excellente journée.
Merci beaucoup. Merci.
Alors, nous, on va faire un retour sur la conférence pacifique de la Fédération des EPL. C'est en vidéo et ça parle du dynamisme de l'économie mixte dans les Outre-mer avec un focus sur la Nouvelle-Calédonie.
Chers membres et représentants des fédérations des entreprises locales, chers participants, chers amis, nous avons vécu une semaine formidable, riche en découvertes, en rencontres, en échanges et en débats d'idées. Le programme concocté par la Fédération calédonienne des EPL était véritablement époustouflant et j'espère que vous avez pu profiter des richesses de la Nouvelle-Calédonie et apprécier toute sa diversité. Alors je retiendrai tout d'abord de cette semaine que nous avons été reçus par les principales institutions de la Nouvelle-Calédonie. Elles ont toutes salué notre initiative et exprimé leur soutien à nos démarches de fédération et de collaboration. Elles ont témoigné unanimement de l'utilité des entreprises publiques locales comme acteurs essentiels de leur propre politique publique. Nous avons ensuite parcouru la Nouvelle-Calédonie du Sud au Nord et notre première étape nous a conduit jusqu'à la Foix pour y être accueillis par l'équipe d'Enercal à la centrale photovoltaïque Wihatche Watom. Alors ce premier projet qui participe à la transition énergétique du territoire a permis de découvrir cette installation de près de 33 000 panneaux photovoltaïques capables de fournir l'électricité pour près de 5 000 foyers. Ensuite, nous sommes allés au domaine de Deva, véritable pépite de la destination, je dis ça en toute objectivité. Roxane Brun, directrice générale de la SEM Moera et de Sud Tourisme, 2 EPL, et Julie Nosmas, directrice générale de Promo Sud, opérateur historique de la collectivité qui finance les initiatives privées et en premier lieu les grands projets hôteliers qui rayonnent à l'international. Sud Tourisme, ensuite, dernière année des EPL calédoniennes, mais qui en seulement 2 ans, a déjà fait des retours d'elle l'ensemble des communes de la province Sud. Enfin, nous avons eu une démonstration du savoir-faire sylvicole de Sud Forêt. Merci Ricardo et Olivier, avec la présentation de son opération de reboisement sur le domaine. En province Nord ensuite, nous avons pu visiter les opérations d'aménagement de la zone d'activité de Payamboué à Conné, réalisées par la SEM Nord Avenir, ainsi que l'usine métallurgique de Cognambo-Nickel, symbole du rééquilibrage industriel et économique de la Nouvelle-Calédonie, et financée par la SMSP, filiale de la Sofinor. On a visité le Petit Chaud, Air Loyauté, la visite de la station N de Christopher Giges et des opérations d'aménagement de la Sécale à la ZAC de Dambéa sur mer. Cette rétrospective de nos visites sur le terrain n'a pas pour seul objectif de nous remémorer des souvenirs qui vous sont, je l'espère, agréables. Elle illustre également la diversité des interventions des EPL et leur impact sur la vie des Calédoniens, sur le développement de la Nouvelle-Calédonie et témoigne du lien de confiance qui prévaut entre les entreprises locales et leurs collectivités. Aucun des projets n'aurait pu voir le jour sans les collectivités à l'initiative de la création des EPL, les principaux, voire seuls actionnaires. L'impact, on en a parlé au congrès en début de semaine, l'impact ou les retombées économiques des entreprises locales sur le territoire calédonien a été parfaitement mis en évidence dans le cadre de l'étude présentée lundi au congrès. Les 22 entreprises publiques locales calédoniennes, membres de la FCPL et leurs 83 filiales, forment l'écosystème EPL et génèrent chaque année 212 milliards de francs CFP de création de richesses, soit plus du quart de l'ensemble du secteur marchand et 5 fois plus que l'industrie du nickel. Au-delà de la création brute de valeur ajoutée, l'effet d'entraînement sur l'économie locale est également à souligner puisque chaque milliard créé génère 3 milliards de retombées induites. On peut ainsi estimer que directement, indirectement et de manière induite, l'écosystème EPL génère 636 milliards de francs CFP de création de richesses chaque année, soit 63% du PIB du territoire. Les EPL et leurs filiales emploient près de 15 000 emplois, c'est un emploi sur 5, direct et indirect, soit 21% des salariés du secteur privé. Ce sont des entreprises plus productives que la moyenne et leur taux d'investissement est deux fois plus important que le taux d'investissement moyen observé par l'ISEE en Nouvelle-Calédonie. Les retombées économiques des EPL sur l'économie locale sont donc colossales et légitiment un peu plus, s'il le fallait, leur rôle stratégique. Mais à mes yeux, l'intérêt le plus important de la semaine écoulée réside dans le fait qu'elle a permis de nouer et de renforcer nos relations, de mieux nous connaître, et d'échanger sur des problématiques communes, sur des sujets qui sont de véritables enjeux pour chacun de nous. Ainsi, la mobilité, la transition énergétique, l'attractivité des territoires ou les politiques régionales constituent autant de thèmes qui ont pu être appréhendés collectivement afin que chacun puisse se nourrir de l'expérience ou de la vision de l'autre pour construire ses propres solutions. Nous le savons, un territoire n'est pas qu'une entité géographique, c'est aussi et avant tout un lien entre des acteurs qui se reconnaissent dans des valeurs, dans des objectifs et des projets communs. Ce projet de territoire pour le Pacifique, je vous propose de le porter avec nos homologues polynésiens et nos homologues de Wallis et Futuna pour constituer, quand ils seront prêts, une fédération régionale des entreprises locales du Pacifique qui fera écho à la fédération de l'océan Indien, en concrétisant ainsi un peu plus l'axe Indo-Pacifique souhaité par le président de la République et qui fera rayonner la fédération nationale à l'autre bout du monde. Telle est notre ambition la plus déterminée.
Après l'océan Indien et l'océan Pacifique, place à l'Atlantique avec vous, Alexandre Vibard. Alexandre, vous allez nous parler avec votre invité d'une collectivité territoriale située au large du Canada et de l'île de Terre-Neuve, précisément.
Oui, Marie-Hélène, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon dont le développement est mis en œuvre par deux EPL créés en 2016, Archipel Aménagement et Archipel Développement. Marie Gontovitch-Py, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice opérationnelle d'Archipel Aménagement. Les deux EPL que je viens d'évoquer se complètent. La SEM Archipel Développement intervient sur le développement économique et l'énergie. La SPL Archipel Aménagement que vous dirigez a pour mission de piloter des projets de construction, rénovation d'équipements et d'infrastructures publiques.
C'est exactement ça. Nous sommes vraiment le bras armé et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-Miquelon et de la commune de Miquelon-Langlade pour piloter une bonne partie de leurs opérations de construction, réhabilitation d'équipements publics, de logements, mais également d'infrastructures, avec notamment une de nos opérations phares, qui est la reconstruction du barrage de la Vigie, notamment financée par la BDT.
Qui est en cours, qui se termine, si tout va bien, là, en 2024, tout bientôt. Donc la Banque des Territoires, effectivement, qui est un partenaire important pour le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon en général, et en particulier à travers ce projet de reconstruction de la barrage de la Vigie. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Le barrage de la Vigie est essentiel pour le territoire de Saint-Pierre, puisque c'est l'une des deux retenues collinaires. Barrage qui était construit dans les années 58 et donc qui souffrait de désordres très importants. Donc le parti pris a été de complètement le démolir et le reconstruire. Une grosse ingénierie, c'est une opération à 15 millions d'euros effectivement, donc a débuté en 2020 et puis vraiment au niveau des travaux l'année dernière, 2022, avec la démolition puis la reconstruction quand on est à peu près à la moitié. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une opération de 15 millions d'euros sur laquelle la collectivité territoriale a pu bénéficier d'un aquaprêt, donc de la Banque des Territoires, à hauteur de 6 millions d'euros, donc qui lui permet notamment sur 50 ans d'amortir, on va dire, pratiquement un tiers de la dépense opérationnelle.
On est dans les temps, il va être fini de rénover en 2024 ?
Écoutez, pour le moment, le calendrier est parfaitement respecté. Au niveau technique, on a toujours des aléas, mais tout se passe bien avec que des entreprises locales de Saint-Pierre-et-Miquelon qui le réalisent. Forcément, une ingénierie avec un gros groupe, c'est Artelia qui nous accompagne sur la reconstruction. Petite pause là, trêve hivernale oblige à Saint-Pierre, parce que les températures commencent à être basses et incompatibles avec les travaux de génie civil, mais on reprend tout ça au mois de mai 2024 et une remise en eau avant l'hiver 2024-2025.
Un petit mot pour conclure sur un projet spécifique qui a été terminé en 2018 et qui illustre vraiment la spécificité du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes problématiques en Nouvelle-Calédonie et à La Réunion. Vous avez mis en place un réseau de chaleur.
Oui, alors comme beaucoup de territoires, Saint-Pierre-et-Miquelon est 100% carboné pour sa production énergétique. Et en 2018, la collectivité territoriale avec Archipel Développement donc, décide de mettre en place un réseau de chaleur. 15 millions d'investissements. C'est 5,8 km de réseau qui ont été mis en place, à près de 4000 litres de fuel qui chaque année sont économisés, tonnes de carbone et 1 400 000 litres de fuel économisés, ce qui est énorme pour notre territoire. Aujourd'hui, ce sont l'essentiel des administrations et des équipements publics qui sont raccordés. Et c'est compliqué d'avoir d'autres sources d'énergie sur notre petit territoire, mais on y arrive.
Voilà, on fait de notre mieux, vous voyez, Marie-Hélène, notamment avec l'aide de la Banque des Territoires, pour, malgré une énergie carbonée, essayer de trouver des économies d'énergie et d'essayer de faire en sorte que ce soit le plus moins d'impact pour la planète.
Merci Alexandre, on vous retrouve dans quelques minutes. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur le stand de la Banque des Territoires, nous sommes au congrès des EPL, un stand baigné de lumière par le soleil, là ça nous chauffe bien le dos. Vous pouvez nous rejoindre, en plus on a accès direct à une très belle terrasse vue mer, on est très très bien. Alors c'est vrai qu'on parle des Outre-mer en cette introduction d'émission, on les met à l'honneur et on va donc écouter tout de suite Hervé Tonnerre, directeur délégué aux Outre-mer et directeur régional Pacifique de la Banque des Territoires.
L'ensemble de l'écosystème d'Economics calédonien intègre la dimension de transition. Après, on voit aussi qu'on a des sociétés Economics qui sont sur notre deuxième champ pour nous majeur, qui est la cohésion sociale et territoriale. On fait référence par exemple à Sud Habitat, qu'on a aidé à recapitaliser fortement. La Calédonie d'aujourd'hui, j'espère la Calédonie de demain, s'est fabriquée fortement et se fabriquera grâce en partie à l'économie mixte. On essaye d'avoir cette articulation, d'être un actionnaire, on essaye d'être un financeur, et puis on essaye aussi d'être un partenaire sur la notion de conseil et d'appui d'expertise. Et puis on va avoir un autre exemple, par exemple, si on parle au-delà de la Calédonie, et si on prend la Polynésie, donc structure sœur dans ce congrès, dans lequel on finance par exemple le parcours du futur dirigeant de la SEM de Moréa, qui sera une SEM d'énergie renouvelable. L'outre-mer est vraiment une terre d'économie mixte. C'est-à-dire, si on fait un ratio, c'est un outre-mer où il y a le plus par habitant et par territoire de sociétés d'économie mixte. Cela se comprend parce que les outre-mer souffrent d'un certain nombre de handicaps ou de difficultés particulières, qui sont, un éloignement, une taille de marché, des contraintes ou de fragilité économique et sociale. Et l'Economics est le bon outil pour, allier les efforts de la puissance publique, les collectivités, et des acteurs comme nous, la Banque des Territoires, et des acteurs purement du privé, Banque de la Place, et sur des projets qui demandent du temps. Et souvent, les acteurs investisseurs privés, qui sont complètement indispensables et qui sont nécessaires, ne peuvent pas aller sur des dossiers qui demandent vraiment cette prise en compte du temps long. Je vais donner un exemple qui est très, presque emblématique. Alors, on prend toujours la zone Pacifique et la Nouvelle-Calédonie, la SEM Sud-Forêt. Créer une filière forestière, ça prend du temps. L'arbre doit pousser avant d'être récolté. Et ça veut dire que le retour sur investissement, il est très tardif. Et au départ, c'est une structure très capitalistique. Et seuls des investisseurs de long terme, collectivités ou banques des territoires sont capables de prendre ce risque.